Après 40 minutes, ils ralentissent et s'arrêtent devant les trois pierres jumelles que la commune de Dorothea a fait tailler et ériger. Les phares projettent une lumière grise. Les pierres luisent quelques secondes, puis retournent à la nuit. Yona gare la voiture à la lisière de la forêt. Dit qu'il vaudrait probablement mieux la camoufler, couper quelques branches, mais ils n'ont pas le temps. Il jette un rapide coup d'œil vers le ciel étoilé, puis se met à marcher aussi vite qu'il peut. Les autres le suivent. La croûte de neige s'étale comme une lourde plaque rigide sur l'épaisse poudreuse. Ils avancent aussi silencieusement que possible. Les indications du vieillard concordent. Après 500 mètres, il voit sous la neige une caravane dévorée par la rouille. Il dévie du sentier et se rend compte que le chemin est déjà frayé. En bas se trouve une maison enveloppée de neige. De la fumée monte de la cheminée. Dans la lumière des fenêtres, les murs extérieurs semblent d'un vert mentholé. Voici la maison de Yussi, pense Eric. Voici la maison hantée. Sur la grande cour devant la maison se dessinent de grands contours obscurs. Le parc de véhicules recouverts de neige forme un étrange labyrinthe. D'un pas crissant, il se dirige lentement vers la maison. Il passe dans les couloirs étroits entre des vieilles guimbardes, des bus, des moissonneuses-batteuses, des charrues et des mobilettes empilées et recouvertes de neige. Il voit une silhouette agitée passer derrière la fenêtre dans la maison. Il se passe quelque chose là-bas. Les mouvements sont rapides. Eric ne peut plus attendre. Il commence à courir en direction de la maison. Il se fout des conséquences. Il faut qu'il trouve Benjamin. Rien d'autre ne compte. Simone le suit, haletante. Il s'approche sur la couche de neige dure et s'arrête sur le bord d'une allée déblayée. Une pelle et une luge en aluminium sont appuyées contre la maison. Ils entendent un cri étouffé, une agitation sourde, effrénée. Quelqu'un regarde par la fenêtre. Une branche craque à la lisière de la forêt. La porte de l'abri à bois claque. Simone respire rapidement. Il s'approche de la maison. La silhouette à la fenêtre a disparu. Le vent bruit dans les cimes des arbres. Une neige fine danse sur la surface dure. Soudain, la porte s'ouvre et ils sont éblouis par la lumière. Quelqu'un les éclaire avec une puissante torche. Ils plissent les yeux et mettent leurs mains en visière pour arriver à voir.
« Benjamin !»
crie Eric. Quand le cône de lumière s'abaisse vers le sol, ils voient que c'est Lydia qui se trouve devant eux. Elle tient de gros ciseaux dans la main. La lumière de la torche se pose sur une silhouette dans la neige. C'est Yussi qui est assis là. Son visage glacé est d'un bleu grisâtre. Ses yeux sont fermés. Une hache est coincée dans sa poitrine. Il est recouvert de sang givré. Simone reste silencieuse près d'Éric et il entend à sa respiration courte, terrifiée, qu'elle a également vu le corps. Au même moment, il réalise que Yona n'est pas avec eux. Il a dû emprunter un autre chemin, pense Eric. Il va se faufiler derrière Lydia et la prendre par surprise si j'arrive à la retenir assez longtemps.
« Lydia !» dit Eric. « Content de te revoir !»
Elle reste immobile et les regarde sans décrocher un mot. Les ciseaux scintillent dans sa main, vacillent mollement. La lumière de la torche brille sur le fond gris de l'allée.
« Nous sommes venus chercher Benjamin !» explique Eric calmement.
« Benjamin ?» répond Lydia. « Qui est-ce ? »
« C'est mon enfant !» dit Simone d'une voix à demi étouffée.
Eric tente de lui faire un geste pour qu'elle se taise. Elle le voit peut-être parce qu'elle fait un petit pas en arrière et s'efforce de calmer sa respiration.
« Je n'ai vu aucun enfant en dehors du mien !» dit Lydia lentement.
« Lydia, écoute-moi !» dit Eric. « Si nous récupérons Benjamin, nous partirons d'ici et nous oublierons tout ça. Je te promets de ne plus jamais hypnotiser un seul... »«
Mais je ne l'ai pas vu !»
répète Lydia en jetant un œil sur les ciseaux.
« Il n'y a que moi et mon Casper ici. »«
Laisse-nous seulement lui donner son médicament !»
implore Eric qui commence à sentir sa voix chevrotée. Lydia se trouve maintenant dans une configuration idéale, pense-t-il fébrilement. Elle a le dos tourné à la maison. Il suffit pour Yona de contourner la bâtisse et de l'appréhender par derrière.
« J'aimerais que vous partiez maintenant, » dit-elle sèchement.
Eric pense voir quelqu'un bouger vers la rangée de véhicules juste derrière la maison. Une vague de soulagement déferle sur lui. Soudain, le regard de Lydia s'aiguise.
Elle lève la torche et dirige la lumière vers l'abri à bois et le tas de neige.
« Casper a besoin de ses médicaments !» dit Eric.
Lydia baisse de nouveau la torche. Sa voix est sévère et froide.
« Je suis sa maman. Je sais ce dont il a besoin !» dit-elle.
« Tu as raison, c'est vrai !» répond Eric rapidement. « Mais si tu nous laisses donner à Casper un peu de son médicament, tu pourras l'éduquer, le réprimander. C'est dimanche et... »
Involontairement, Eric se tait en voyant la silhouette s'approcher derrière la maison.
« Le dimanche, » poursuit-il, « tu as l'habitude de... »
Deux personnes contournent la maison. Yona avance d'un pas rigide et réticent. Marek pointe un fusil dans son dos. La bouche de Lydia s'étire en un sourire. Elle monte sur la croûte de neige au-dessus de l'allée des blayés.
« À balai !»
dit-elle brièvement en hochant la tête en direction de Simone.
« Elle d'abord !»
« Il n'y a que deux cartouches dans le fusil !» répond Marek.
« Fais comme tu veux, mais fais-le »
répond-elle.
« Marek !» dit Eric. « On m'a empêché d'exercer. J'aurais voulu t'aider à... »«
Ferme-la »
interrompt-il.
« Tu avais commencé à parler de ce qui s'était passé dans la grande maison dans la campagne de Zenitsha Doboy. « Je peux te montrer ce qui s'est passé, » dit Marek en regardant Simone avec des yeux calmes et brillants.
« Mais fais-le à la fin !»
soupire Lydia d'une voix impatiente.
« Allonge-toi, » dit Marek à Simone, « et enlève ton jean. »
Elle ne bouge pas. Marek pointe le fusil sur elle. Elle recule. Eric s'approche et Marek le vise rapidement.
« Je lui tire dans le ventre, » dit Marek. « Comme ça, il pourra regarder quand on s'amuse. »
« Vas-y !»
dit Lydia.
« Attends !»
dit Simone, qui commence à déboutonner son jean. Marek crache dans la neige et fait un pas vers elle. Il ne semble pas trop savoir quoi faire. Il jette un regard sur Eric, balaie le fusil dans sa direction. Simone ne croise pas son regard. Il la vise à son tour, dirige la bouche du canon contre sa tête, puis son ventre.
« Ne fais pas ça !» dit Eric.
Marek abaisse le fusil et s'approche de Simone. Lydia fait un pas en arrière. Simone commence à baisser son jean et sa culotte.
« Tiens le fusil !» dit Marek à Lydia.
Elle s'approche lentement quand un craquement retentit parmi les véhicules enneigés. Des cognements métalliques répétés. Il y en a tous. Les coups persistent et soudain, un grondement s'élève. C'est un moteur qui démarre, le bruit perçant de pistons qui travaillent. Une lumière vive apparaît sous la croûte de neige. Le sol sous leurs pieds devient d'une blancheur éclatante. Le moteur tourne en poussant des hurlements, la boîte de vitesse crie et la neige gicle abondamment. Un vieux bus avec une grande bâche sur le toit dévale du remblai de neige, démolit la croûte et fonce droit sur eux. Quand Marek tourne le regard vers le bus, Yona se précipite sur lui avec une remarquable rapidité. Il tire brusquement le canon du fusil. Marek tient bon, mais est obligé de faire un pas en avant. Yona le frappe de toutes ses forces sur la poitrine et tente de balayer ses jambes, mais Marek ne tombe pas. Il s'efforce de retourner le fusil. La crosse heurte Yona sur le crâne et dérape sur sa tête. Marek a si froid aux doigts qu'il lâche le fusil. Celui-ci vrille et atterrit devant Lydia. Simone se jette pour l'atteindre, mais Marek empoigne ses cheveux et la tire brusquement en arrière. Le bus a buté contre un frêle sapin. Le moteur continue de gronder. Des gaz d'échappement et de la neige tourbillonnante fument autour du véhicule. La porte avant ne cesse de s'ouvrir et de se refermer dans un chuintement saccadé. Le régime du moteur s'accélère de nouveau. L'arbre vacille. De la neige tombe de ses branches sombres. Le bus heurte obstinément le tronc et l'écorce avec des bruits sourds et métalliques. Les roues tournent et patinent malgré les chaînes.
« Benjamin !»
crie Simone.
« Benjamin !»
Le visage de Benjamin se devine confusément derrière la vitre du bus fumant. Du sang coule de son nez. Lydia court vers le bus avec le fusil de Marek. Eric la suit. Lydia s'introduit par la porte, crie quelque chose à Benjamin, le frappe avec la crosse et l'éjecte du siège conducteur. Eric n'arrive pas à temps. Le bus recule, braque d'un coup sec et commence à dévaler brinque-ballant la pente en direction du lac. Eric crie à Lydia d'arrêter et court derrière eux dans les traces des pneus. Marek ne lâche pas les cheveux de Simone. Elle crie et tente de se libérer de sa main. Yona se glisse rapidement sur le côté Son épaule s'affaisse, son corps tourne et il balance un uppercut qui heurte l'aisselle de Marek avec une grande violence. Le bras volette, comme s'il s'était détaché. Marek lâche les cheveux de Simone qui se dépêtre et découvre au même instant les grands ciseaux dans la neige. Marek frappe un coup de l'autre main. Mais Yona esquive et de tout son poids frappe Marek d'un coup de coude. La clavicule de Marek se casse dans un craquement sourd. Marek tombe à terre en poussant un cri. Simone se jette sur les ciseaux, mais Marek lui décoche un coup de pied dans le ventre. Il attrape les ciseaux et les brandit en arrière avec sa main valide. Simone crie et voit le visage de Yona se figer quand les ciseaux se plantent dans sa cuisse droite. Du sang éclabousse la neige. Yona se maintient debout. Il a déjà les menottes à la main et s'en sert pour frapper Marek sur l'oreille gauche. Un coup puissant. Marek se fige, fixe le vide devant lui d'un air désorienté et tente de dire quelque chose. Du sang coule de son oreille et de son nez. Haletant, Yona se penche sur lui et attache les menottes sur ses bras mous. Eric file derrière le bus dans l'obscurité. L'air lui brûle les poumons. Les feux arrière rouges luisent devant lui. Plus loin, les lumières pâles des phares flottent sur les arbres. L'un des rétroviseurs éclate bruyamment contre un tronc. Eric se dit que le froid protège son fils, que les degrés au-dessous de zéro abaissent la température corporelle d'environ un dixième, suffisamment pour que le sang de Benjamin s'épaississe, peut-être suffisamment pour qu'il s'en sorte malgré ses blessures. Le sol s'incline abruptement derrière la maison. Eric trébuche et se relève. Des bosquets d'arbres et des buttes sont cachés sous la neige. Le bus n'est qu'une ombre lointaine, une silhouette entourée d'une lueur trouble. Il se demande si Lydia essaiera de longer la rive pour contourner le lac et retrouver la vieille route forestière. Le bus freine et il le voit au contraire braqué sur la glace. Il lui crie d'arrêter. Un bout de corde qui traîne s'empêtre dans le ponton et arrache la bâche sur le toit du bus. Eric s'approche de la rive. Une odeur de gasoil flotte dans l'air. Le bus a déjà parcouru 20 mètres sur le lac. Eric dégringole en bas de la pente. Il est très essoufflé, mais continue de courir. Subitement, le bus s'arrête. La peur au ventre, Eric voit les feux arrière rouges se diriger vers le haut, comme des yeux qui se lèveraient lentement. La glace gronde et craque violemment. Il s'arrête au bord de la rive, tente de voir quelque chose. Eric comprend que la glace a cédé, que le bus est passé au travers. Les roues patinent, mais ne font que percer la glace davantage. Eric s'empare de la bouée de sauvetage près du ponton et commence à courir sur la glace, le cœur battant. L'éclairage dans le bus qui flotte encore l'illumine telle une coupe en verre givrée. L'eau bouillonne. De lourdes plaques de glace se détachent et se retournent dans l'eau noire. Eric croit voir un visage blanc dans les remous de l'eau derrière le bus.
« Benjamin !»
crie-t-il. Des rouleaux déferlent sur la glace et la rendent glissante sous ses pieds. Rapidement, il prend la corde attachée à la bouée, la serre autour de sa taille et fait un nœud pour ne pas lâcher prise. Il jette la bouée dans l'eau obscure, mais ne voit plus personne. Le moteur gronde. La lueur rouge des feux arrière se répand sur la neige et la glace boueuse. L'avant du bus s'enfonce davantage. Seul le toit reste visible. Les phares disparaissent dans l'eau. Le bruit du moteur n'est plus audible. On n'entend plus rien, que la glace qui craque et crisse, et l'eau qui bouillonne mollement. Soudain, Eric voit que Benjamin et Lydia se trouvent encore tous les deux à l'intérieur du bus. Le plancher s'incline. Il remonte vers l'arrière. Benjamin se cramponne à une barre. Le toit côté conducteur est presque au niveau de la glace. Eric se précipite vers le trou et saute sur le bus. Le grand véhicule vacille sous son poids. Au loin, il entend Simone crier quelque chose. Elle est arrivée au bord de la rive. Eric avance à quatre pattes jusqu'à la petite fenêtre du toit, se relève et l'enfonce avec le pied. Des éclats de verre ruissellent en bas des sièges et sur le sol. Il ne pense plus qu'à sortir Benjamin du bus qui est en train de sombrer. Il s'introduit par la fenêtre, se suspend par les bras et réussit à appuyer les pieds contre le dos d'un siège pour descendre. Benjamin a l'air terrorisé. Il ne porte qu'un pyjama. Du sang coule de son nez et d'une petite plaie sur la joue.
« Papa !» chuchote-t-il.
Eric suit le regard de Benjamin jusqu'à Lydia. Elle est au fond du bus, dans le couloir central, le visage fermé. Elle tient le fusil, la bouche en sang. Le siège du conducteur est immergé. Le bus sombre davantage et le plancher penche de plus en plus. De l'eau s'engouffre par les joints des portes du milieu.
« Il faut sortir du bus !»
crie Eric. Lydia secoue lentement la tête.
« Benjamin !» dit-il, sans lâcher Lydia du regard. « Grimpe sur moi et sors par le toit !»
Benjamin ne répond pas, mais lui obéit. Il s'approche d'un pas hésitant, grimpe sur un siège, puis passe sur le dos et les épaules d'Eric. Quand il atteint la fenêtre du toit avec les mains, Lydia hausse le fusil et tire. Eric ne ressent pas de douleur, juste une décharge dans l'épaule si forte qu'il en est renversé. Ce n'est qu'en se relevant qu'il sent la douleur et le sang chaud qui coule. Benjamin est suspendu à la fenêtre. Eric avance et l'aide de son bras valide. Il voit Lydia lever de nouveau le fusil sur lui. Benjamin est déjà sur le toit quand le coup part. Lydia rate sa cible. La balle frôle la hanche d'Eric, une grande vitre près de lui éclate et de l'eau glacée jaillit à l'intérieur. Tout va très vite. Eric tente d'atteindre l'issue dans le toit, mais le bus bascule sur le côté et il se retrouve sous l'eau. Le choc thermique lui fait perdre connaissance quelques secondes. Il agite les jambes sous le coup de la panique, remonte à la surface et remplit ses poumons d'air. Dans un grincement métallique, le bus se met à sombrer lentement dans l'eau noire. Il chavire. Eric se cogne la tête et se retrouve de nouveau sous l'eau. Ses oreilles grondent et un froid insupportable l'enveloppe. À travers les fenêtres, il voit les phares illuminer les profondeurs du lac. Son cœur cogne. Sa tête est prise dans un étau. L'eau engourdit tous ses membres. Il n'arrive plus à bouger. Il voit Lydia sous l'eau, qui se tient à une barre, le dos contre les sièges arrière du bus. Il voit l'ouverture dans le toit et la fenêtre exploser. Il sait que le bus est en train de sombrer. Il sait qu'il doit sortir, qu'il y a urgence, qu'il doit se battre. Mais ses bras ne lui obéissent plus. Il se sent en état d'apesanteur. Il n'a plus aucune sensation dans les jambes. Il tente de se déplacer, mais a du mal à synchroniser ses mouvements. Eric voit qu'il est entouré d'un nuage de sang qui s'échappe de sa plaie à l'épaule. Soudain, il croise les yeux de Lydia. Elle le regarde d'un air serein. Il s'observe en silence, suspendu dans l'eau glacée. Les cheveux de Lydia ondulent au rythme de l'eau. De petites bulles d'air s'écoulent de son nez en un collier de perles. Eric a besoin de respirer, son cou se tend, mais il lutte contre la révolte de ses poumons qui cherchent de l'oxygène. Ses tempes cognent, une lumière blanche scintille derrière ses yeux. La température de son corps est si basse qu'il est sur le point de perdre connaissance. Un sifflement s'amplifie dans ses oreilles avant de refluer. Eric pense à Simone. Il se dit que Benjamin va s'en sortir. C'est comme un rêve, flotter librement dans l'eau glaciale. Avec une étrange lucidité, il réalise que l'heure de sa mort est arrivée. L'angoisse l'étreint. Il a perdu toute notion de direction, de son propre corps, de la lumière et de l'obscurité. L'eau lui semble subitement chaude, presque brûlante. Il se dit que, d'un instant à l'autre, il sera obligé d'ouvrir la bouche et d'abandonner. Il laissera venir la faim et ses poumons se remplir d'eau. D'étranges pensées lui traversent l'esprit quand soudain il sent que la corde autour de sa taille se resserre. Il avait oublié qu'il avait noué autour de son corps la longue corde attachée à la bouée de sauvetage. Elle a dû s'accrocher quelque part. Lourdement, il est tracté sur le côté. Il ne peut plus résister, il n'a plus de force. Inexorablement, son corps mou contourne une barre, puis traverse en biais la fenêtre du toit. L'arrière de sa tête heurte sourdement quelque chose. Une chaussure se détache de son pied. Autour de lui, il n'y a plus qu'une eau noire. Il se sent attiré vers la surface et voit le bus continuer sans lui vers les profondeurs. Il devine Lydia, dans la cage illuminée, qui plonge en silence vers le fond du lac.